Salut, je m'appelle Raphaël et je m'occupe de plein de beaux projets pour le Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pour la deuxième saison du balado Écrire, on a voulu rencontrer des auteurs et des autrices qui rendent la littérature vivante de toutes sortes de façons. Des gens inspirants qui transmettent leur passion et pour qui l'écriture, ça se passe pas seulement dans un bureau. Pour m'aider, j'ai pensé à mon amie Sophie Gagnon-Bergeron, avec qui j'ai étudié en littérature et qui est aujourd'hui réalisatrice.
Raphaël et moi, on a cherché à comprendre comment la littérature et l'écriture nous aident à vivre et à créer des liens avec les autres. En discutant avec nos invités, on a trouvé des réponses variées et captivantes. De quoi nous convaincre que le livre a définitivement un bel avenir devant lui.
Dans ce premier épisode avec Charles Sagalan, on goûte au plaisir de l'indiscipline littéraire et à la richesse des rencontres humaines.
Bonjour Charles!
Bonjour!
C'est un plaisir de t'accueillir aujourd'hui chez Canopée à Chicoutimi. Tu es déjà venu quelques fois.
Oui.
Puis moi, je me suis dit aussi bien le dire tout de suite, toi et moi, on se connaît depuis 10-12 ans, certains. On collabore ensemble sur divers projets. Cette belle relation-là, puis ainsi que celle que tu mènes avec Raphaël, que tu connais aussi bien sur le plan professionnel, m'a mené à penser que le « tu » pouvait convenir pour notre discussion aujourd'hui, le tutoiement. Ça te va, ça te convient.
Je suis d'accord avec toi.
Excellent, merci. Moi, je te connais, mais je vais quand même te présenter pour ceux et celles qui nous écoutent et qui n'auraient pas cette chance. Charles, tu as publié à ce jour 7 livres aux éditions La Peuplade. Tu es aujourd'hui écrivain à temps plein. Tu as été enseignant et entrepreneur brassicole. Et tu te décris toi-même, j'emprunte tes mots, comme un globe-trotteur et un gourmand qui veut tout connaître, dont les outils d'écriture lui servent à bâtir des liens vers un nous fécond. Je trouvais ça magnifique, ces mots-là. À l'origine de ton récent projet Bibliothèque de survie, il y a ce pari, puis je cite encore tes mots, « Ce n'est pas nous qui sauvons les livres, ce sont les livres qui nous sauvent. » À quoi l'écriture sert? Que peut la littérature pour nous? Ce sont des questions centrales en soi, mais tout à fait centrales aussi dans le cadre de la démarche qu'on fait, ce balado-là. C'est des questions qu'on se pose. Donc, je me suis dit, pourquoi pas commencer par là, par les grandes questions, puis te demander d'entrée de jeu, Charles, comment les livres nous sauvent-ils?
Oh, quelle question, hein? je dirais que pour moi, les livres me sauvent vraiment. La réponse la plus facile, c'est au quotidien, à chaque jour. Chaque jour est... Je suis un gourmand, donc chaque jour est une occasion de saveur, mais chaque jour est aussi une occasion de lecture, une occasion de rencontre. Le livre, l'écriture, ça multiplie les possibles. Je suis capable d'avoir comme ami Thoreau ou d'avoir comme ami Bachot parce que je suis capable de les fréquenter sur un mode quotidien. Je suis capable de les faire vivre dans ma vie aussi, de les semer dans mon quotidien puis de les voir fleurir dans mon quotidien. Donc, pour moi, les livres nous sauvent parce que c'est une nourriture quotidienne. Puis sans cette nourriture-là, les livres puis l'art en général, moi, je ferais de la grave carence, ça c'est sûr.
De la grave carence. Tu serais carencé en quoi?
Je serais carencé en bonheur de vie, en expérience humaine, en conscience élevée des choses. Peut-être mon budget s'en porterait mieux.
Non, notre budget à tous s'en porterait mieux. Ouais, ouais. Mais heureusement, il y a les bibliothèques.
Oui, exactement.
Pour sauver le budget, hein, qu'elle soit de survie ou qu'elle soit publique, les bibliothèques sont bien pour sauver le budget.
Moi aussi, j'aimerais emprunter une de tes formules. Souvent, tu te définis comme un écrivain indisciplinaire. C'est une formule que j'aime beaucoup d'ailleurs. En quoi, j'aimerais t'entendre là-dessus, en quoi tu es indisciplinaire ou indiscipliné, Charles?
Oui, ben, j'ai choisi indisciplinaire justement parce que mon indiscipline est vis-à-vis une discipline artistique, la littérature. Puis indisciplinaire, pour moi, ça veut dire, je me sens, comme écrivain, je me sens pas à l'aise de me dire, mettons, artiste multidisciplinaire ou interdisciplinaire. Pour moi, indisciplinaire, ça me laisse la liberté d'agir avec l'écriture, en trichant l'écriture vers d'autres pratiques, que ce soit des pratiques artistiques, mais aussi des pratiques quotidiennes, comme pour la bibliothèque de survie, c'était le canotage, la randonnée, c'était les raquettes, c'était la cueillette. Donc, C'est une façon de considérer la littérature toujours tournée vers autre chose. Comme si la littérature avait beaucoup à apprendre d'autres pratiques. Écrire en marchant, c'est pas comme écrire à son bureau. Même chose pour écrire en hiver ou écrire in situ, dehors, c'est pas la même chose. Donc, ma manière de nourrir l'écriture, moi, c'est pas nécessairement par une imagination foisonnante, des milliers de personnages. C'est vraiment par en tournant l'écriture vers d'autres pratiques. C'est ça, moi, qui fait en sorte que j'ai une espèce d'élan créatif.
Ce que je remarque, c'est non seulement vers d'autres pratiques, mais c'est vers d'autres praticiens aussi. Il y a des liens qui se créent avec d'autres personnes, puis tu fais beaucoup ça, puis j'en suis moi-même témoin, parce qu'on fait des choses ensemble, mais tu en fais énormément avec d'autres personnes. Pourquoi? Qu'est-ce que ça amène de créer ces liens-là?
Je me demande si ça a été un choix. Je pense que ça a été un besoin, puis je pense que c'est venu du besoin de plus en plus d'écriture, est venu le besoin de plus en plus de rencontres. Sans doute, il y a l'envie de se renouveler, il y a l'envie de se connaître autrement. Par définition, un écrivain, ça écrit généralement tout seul devant une feuille de papier. Là, c'est un peu la définition. Mais s'il y a avant ça un bonheur d'expérimenter autrement, pour moi... Je me suis vite rendu compte que j'arrive d'une résidence d'écriture en Provence, puis par exemple, j'allais faire une randonnée, on était 20, puis pour moi, ils ne savaient pas, mais c'était mon groupe de recherche. Pour moi, je pose des questions, puis là, j'ai des infos et des infos. Donc, il y a quelque chose de beaucoup plus concret plutôt que toujours en train de faire des recherches par soi-même. Puis après ça, il y a quelque chose de très stimulant dans la rencontre pour moi.
Ça amène aussi un côté très vivant, je trouve, à la création, mais au milieu littéraire. Je veux dire, on dirait que tu es partout, on te voit un peu partout, les gens te connaissent, les gens participent à tes activités. Donc, oui. Il y a quelque chose de...
Oui, je pense que vivant, c'est le mot... Puis j'allais dire habitant, tu sais, c'est habiter... les habitats où je suis, ils sont variés parce que si je fais un projet où la CEPAC est impliquée, où Equinox Aventure est impliquée, ou un autre. Donc, l'idée des partenaires aussi fait en sorte que ça me répercute sur plein de domaines, d'aspects. Puis, le fait de fonctionner avec un projet d'ensemble fait en sorte aussi que... ça peut être intéressant pour les autres de dire, on a le goût de participer à ça, tu sais, mais on est une bibliothèque, on est un parc, tu sais, de la CEPAC, de Jacques Cartier, on est... Donc, il y a comme... il y a une manière d'être en relation qui est comme... ça, la bibliothèque de survie a permis ça, les gens, comme on... C'est presque une OSBL. Là. Les gens comprennent. on a quelque chose à apporter. On voudrait faire partie de ce projet-là. Donc, peut-être l'approche projet permet ça aussi.
Quand on est allé poser une bibliothèque de survie ensemble sur le mont Apica, un des instants que j'ai préféré, c'est quand on a pris le temps de lire. On a pris le temps de lire,
de se lire des
extraits, de se l'offrir, tu sais, dans le contexte du Mont-Pica. On l'avait fait aussi sur les îles au Lac-Saint-Jean. Puis là, tout d'un coup, il y a un côté quoi, performatif, il y a un côté vécu, il y a un côté commun de la littérature qui apparaît. Et ça, c'est, j'oserais dire, magique.
Oui, ouais, c'est vrai que ces deux aspects-là, l'idée d'installation puis l'idée de performance... j'ai l'impression que ça aussi, ça se dissocie très peu pour moi maintenant de l'écriture. Donc, si j'ai mes habits de bibliothécaire de survie, la randonnée elle-même va être un certain script. Il va y avoir après ça une improvisation, il va y avoir un rendu, il va y avoir une interaction, une animation. Tout ça, c'est de l'ordre de la performance. C'est très gratifiant aussi. Je trouve ça intéressant pour un écrivain de... se gratifier avec autre chose qu'une performance écrite.
Oui, puis c'est là que le vrai partage se passe, parce que les collaborateurs ou le public, peu importe les gens qui t'accompagnent, sont partie prenante de l'expérience, de la performance, du moment, et ils en sont conscients. Et ça se passe de façon quand même tout à fait naturelle, mais je veux dire, c'est là, comme on dit, que la magie opère, que le partage se crée, que ça amène quelque chose à la personne qui a participé, qui va avoir le goût, qui va avoir un souvenir, qui va avoir le goût d'aller plus loin, qui va... C'est là que la transmission se fait, en ce sens-là. C'est le côté performatif qui aide à ça.
Tout à fait, puis j'ai l'impression que les gens sont des co-créateurs, donc, je veux dire, moi, ils m'amènent quelque chose dans ma propre création, mais moi, dans la leur, j'apporte quelque chose aussi, donc... Puis ça va même maintenant, en tant qu'écrivain nature, j'ai l'impression que, moi, j'ai des co-créateurs comme le lac Saint-Jean. Je veux dire, j'ai pas l'impression, quand je mets une citation sur un bois de grève, que j'ai tout fait, là. Ou que quand je décris un paysage, j'ai tout fait. C'est le lac qui fait le paysage, c'est lui qui va sculpter, c'est le lichen qui fait son travail. Moi, je le rapporte, mais j'ai de plus en plus cette humilité-là de me dire c'est une co-création, là. Moi, je vais mettre de la parole par-dessus ça comme on va colorer une case de Tintin.
Donc, c'est très beau, j'adore ça. C'est très organique, mais c'est très... je sais pas, c'est plein de sens.
ça enlève aussi l'espèce d'idée de devoir créer de ça. Il y a une simplicité qui s'installe, puis il y a comme une authenticité aussi qui s'installe dans la rencontre, donc... À force d'en faire aussi, par force de mener des marches, de faire des activités aussi, on se laisse aller à l'accident, on se laisse aller à... J'ai fait une marche pour la bibliothèque de survie là-bas dans le Luberon, puis à un moment donné, il est arrivé quelque chose, puis j'ai dit « Ah, ben, l'accident est toujours poétique ». Il y a quelqu'un qui a sorti son carnet qui a noté
qui l'a
l'accident
noté,
est toujours poétique. Ouais, ça lui appartient autant qu'à moi maintenant.
Effectivement. On parle de rencontres, on parle d'activités littéraires. Tu fais aussi beaucoup d'ateliers. Tu vas dans les écoles. Mais quand j'ai travaillé avec toi, tu allais rencontrer des jeunes du secondaire. Puis les commentaires sont toujours dithyrambiques. T'sais, le courant passe, comme on dit. Là, qu'est-ce qui fait, d'après toi, que ça marche autant?
Je pense que profondément, y a l'expertise qui est là, qui se construit. Mais cette expertise-là, ce qu'elle sert, c'est que je deviens de plus en plus naturel. Je pense que je deviens de plus en plus moi-même... de manière complète ou de manière étendue. Donc, je vais montrer tout ce que je suis dont l'écrivain fait partie. Donc, c'est facile pour moi de dire, moi, j'adore écrire, mais je suis gourmand. Je fais comme vous mon magasinage. Je vais, si vous aimez... faire de la randonnée, si vous aimez. Donc, il y a un rapport humain qui s'installe, puis que l'écriture est un espèce de catalyse, puis ça accélère, mais aussi plus profondément, je pense que c'est comme une espèce de creuset, ça sert à chauffer les éléments pour que ça soit encore plus humain, j'ai l'impression. Mais je pense qu'au bout de 10 ans aussi, on voit à peu près tous les cas de figure, tous les scénarios. On voit aussi, on sait quand où accélérer, où ralentir, puis on se laisse beaucoup de marge de manœuvre, je pense.
Puis en montrant ton côté humain, autrement dit, vous êtes sur un même pied d'égalité. Encore une fois, ils sont parties prenantes, donc t'es pas au-dessus d'eux, t'es pas « je vais vous montrer ». J'ai l'impression que c'est très collaboratif, encore une fois.
Oui, oui, tout à fait. Puis des fois, je me dis « mais là, je suis encore en train de leur dire qu'ils sont bons, puis je suis très enthousiaste parce que je trouve ça bon. J'ai pas d'a priori dans ma tête de ce que ça doit être, donc ce qui est produit, je trouve ça toujours intéressant parce que ça vient d'une personne, c'est une perspective, puis c'est justement pas ce à quoi j'ai pensé, donc c'est ça qui me plaît. C'est souvent ça parce que l'écriture est souvent dans un mode t'as ça à produire, fais ça dans ton premier paragraphe, tu sais, puis c'est très conventionné, c'est très normatif, c'est très... Donc, le fait de se libérer, je pense qu'il y a peut-être ça aussi, de créer dans la classe un espace de liberté.
Mais oui, c'est ça, mais c'est ça pour moi aussi, l'indiscipliné ou l'indisciplinaire, là, c'est ça, c'est de sortir de la seule discipline, tu sais, voici un schéma narratif, voici ce que ça devrait être, voici ce que... Ça crée un rapport décomplexé à la création. Et ludique aussi. Il y a ça, de ramener, je trouve, l'aspect de plaisir, l'aspect de... Ça, je trouve que tu sais très bien le faire, en fait.
Oui, sinon je m'ennuie.
Oui, s'il n'y a pas une part de jeu dans tout ça.
Ben oui, puis ça prend des épices, là, je veux dire, une bonne recette. C'est vraiment souvent ça qui fait la différence. Donc, des fois, je le vois, tu sais, je peux voir des collègues qui font des choses, puis des fois, je dis, ouais, tu as toute ta construction, tu as tout ça, mais tes épices, tes petits, tu sais, le petit truc qui fait que ça. Le petit goût de revenez-y.
Ouais, le petit brillant, là, ce qui fait que ça va lever. Là,
la poudre de fée.
C'est ça. Penses-tu continuer d'en donner encore longtemps de ces ateliers-là? Ça fait-tu. Je suis certaine que tu as un plan.
c'est encore drôle. Hein? Le plan se déplace selon les opportunités, mm-hmm. je dirais. L'atelier d'écriture, c'est une espèce de pan d'atelier de création au sens large. Par exemple, je fais des marches de Shinrin-yoku, de bains de forêt japonais. Donc, ça peut être développer le contact avec la nature, le regard. Ça peut être développer l'acte créatif en ramassant des petits objets de la forêt puis en créant quelque chose. Donc, l'écriture vient se mêler à ça, mais l'écriture en tant que telle n'est pas une visée sine qua non, là. Donc, pour les prochaines années, je suis bien impliqué à la forêt Bagne, kilomètre cube. Donc, il va y avoir beaucoup de création in situ. Donc, l'atelier d'écriture se déplace. C'est pas nécessairement toujours avec une grande feuille, puis écrire. J'ai des bâtons d'écriture que je déplace avec des citations. Donc, il y a quelque chose de beaucoup plus mobile et presque intangible à l'écriture, comme un peu en amont du geste d'écriture. Donc, c'est ce que je leur dis. Quand il fait moins 30, ben souvent, je vais ruminer un haïku dans ma tête pendant que je fais mes raquettes. Donc, l'idée de développer des aspects de la pratique puis de le transmettre. Donc, ça aussi, souvent, l'atelier d'écriture va servir ça.
Ce qui me frappe, ben, tu l'as dit, c'est que... Tu l'as dit tout à l'heure, c'est que pour toi, l'écriture, c'est pas compartimenté, c'est pas « voici en ce moment... » Je fais mon travail d'écrivain, c'est tout le temps, partout, en dehors du livre, dans tout ce que tu fais. Puis ça ouvre des portes encore là. C'est, regardez, ça peut être ça aussi, ça peut être ça écrire, ça peut être ça être écrivain, ça peut être ça créer. Donc, je trouve que c'est inspirant.
Oui, effectivement. Puis je pense que c'est ça qui fait que j'ai des écrivains qui viennent participer à mes projets un peu fous, c'est de voir de quoi. Ce que ça peut avoir l'air, puis souvent, ben, ça va créer chez eux des idées, des projets, même des petites communautés. Bien sûr, il y a beaucoup d'émulation réciproque là-dedans, puis je trouve que c'est important. Je pense que il y a des réflexions aussi, là. Je suis dans des groupes de réflexion sur les pratiques d'art de lettres, de tout ce qui déborde le livre en littérature, donc... Je pense que c'est quand même assez tendance, les gens. Je me sentais assez seul il y a 10 ans, même il y a 5 ans.
Là, on t'a rattrapé, t'attrape.
Ouais, là, maintenant, je sens des belles communautés autour, puis je sens qu'il y a beaucoup d'ouverture à ça. C'est pas juste une manière bizarre de faire des livres, c'est vraiment juste une saine façon de regarder qu'est-ce qui peut se faire sans toujours se formater sur « voilà, j'ai un roman et c'est ce que je propose ». Donc... Oui, je pense que là-dessus, j'ai pas de plan parce que je vois un bel avenir ouvert.
Mais je pense que je parlais de plan parce que tu as été entrepreneur, tu as une façon de t'organiser pour que les choses avancent. Oui. Je vais le dire vraiment comme ça. Là, pour que les choses se passent, pour que les choses avancent, pour que les projets se fassent. Tu es presque un créateur d'opportunités. C'est fou de le dire comme ça, mais il y a ça. Puis moi, je t'ai quand même vu passer aussi de, justement, l'entrepreneur qui fait 40 heures semaine, qui en a, tu sais, t'étais presque surchargé. Là, moi, je suis entrepreneur aussi, je vis cette surcharge-là. Ah, non, je plonge, je me commets, puis je vais être dans cet art de vivre la littérature, art de vivre la création à 100%. Oui. Puis pour ça, ça prend quand même ça prend quand même une certaine notion. Ben, faut savoir où on s'en va. Voilà.
Mais tu as raison, puis je peux compléter parce que effectivement dire j'ai pas de plan, c'est un j'ai pas de plan, mais j'ai une méthode. Fait que la méthode, c'est tu vois, la bibliothèque de survie, là, j'arrive de Guadeloupe puis de France avec ça, puis ça va continuer. c'était de poser un livre dans un sac Ziploc puis d'aller voir ce qui allait se passer là, il y a 10 ans. Fait que quand j'ai... c'est, quand il y a quelque chose qui fonctionne, ben moi, j'ai tendance à explorer, à ajouter. Donc là, il y a une méthode d'accumulation par rapport à ça. Donc là, la bibliothèque de survie, c'est sûr que j'ai pas de... Tu sais, je dis que j'ai pas de plan, mais j'aimerais ça toucher, mettons, partout où il y a du fait français. Fait que ça me fait quand même un bon plan d'attaque. puis en blague, les gens, des fois, ils me demandent où ça va arrêter. Puis je dis, ben j'aimerais bien en poser une un jour sur la Lune.
Sur la Lune, c'est clair que c'est là que ça s'en allait.
Fait
ouais.
Que tu vois, fait que ça, c'est un truc. Puis là, ben dans chaque projet, bon... Puis, tu sais, en arrière-plan, là, le fondateur du musée, moi, qui regarde le gros édifice puis qui dit, bon, ben vers où on s'enligne et tout ça, ben moi, dans mon travail d'ensemble artistique littéraire, j'ai un musée avec 20 sections, puis les livres se basent dans des sections et tout ça, donc j'ai un énorme échiquier là, à remplir. Ça, c'est mon plan d'architecte.
Ton plan d'architecte, c'est ça, exactement, mais j'ai une admiration infinie pour le fait d'assumer que c'est un travail à temps plein, tu sais, puis que c'est un travail légitime et que c'est un travail nécessaire et que c'est un travail qui va se faire.
Nécessaire pour moi, en tout cas.
Ben moi, j'oserais dire nécessaire en soi, nécessaire pour les autres, nécessaire pour, tu sais, ouais. Nécessaire parce que je citais au début que tu parles de créer un nous fécond. C'est quand même une des volontés, puis ça, c'est pas rien, là, vouloir créer un nous fécond.
Ça m'a pris, je te dirais, au moins 10 ans à assumer, à partir de la première publication, de dire, regarde, il y a quelque chose, de pour moi, de vaste. Je m'attends qu'à ça. C'est un peu, je sais pas comment le dire, ma cathédrale ou ma ville. Puis c'est à ça que je m'attaque, petite brique par petite brique. Puis j'avais besoin de ça pour pas m'éparpiller, je pense. Même encore là, tu sais, là, c'est comme... Non, là, t'es bibliothécaire de survie. Bon, pense à resserrer un peu puis ramener ça dans le cadre de ton livre. Puis là, au moins, où tu t'en vas avec ça? Ben je m'en vais de boréal à tropical à provençal. OK, ça fonctionne. Tu sais, d'essayer de me resserrer un peu puis de me donner des lignes, des directrices.
Ouais.
Parce que souvent, ben dans l'effervescence... On va en faire beaucoup, puis on peut se perdre. Ça me permet d'avoir exactement, puis de penser au nous aussi, de dire vers où ça va pour les autres.
J'ai juste besoin de raconter que, tu sais, on en a posé une fois dans le cadre d'un symposium des arts de la neige, là, puis j'ai une image, là, tu sais, c'est comme des épinettes. Puis il y a des gens à la queue leu-leu en raquette, puis avec deux gars qui transportent la bibliothèque. T'sais, on était presque ça, 20 personnes,
oui,
il me semble, cette fois-là.
C'est
en tout cas. Puis j'adore ces photos-là, de l'espèce de procession avec la bibliothèque. T'sais, toute la gang, on s'en va faire ça.
Oui.
C'est la performance.
Oui, ouais. Mais c'est parce qu'on s'entend tous ensemble aujourd'hui sur le fait que c'est une chose importante de faire ça.
Effectivement.
On donne sens à ça. C'est ça, je crois, que tu offres aussi, cette possibilité de donner sens à ça, qu'autrement, je ne suis pas sûre qu'on y aurait
c'est
pensé.
Ouais.
Puis on a besoin de ça, je pense. Je n'arrête pas de me trotter dans la tête depuis le début de la discussion, mais il y a une accessibilité dans tout ça. Tu sais, il y a comme, c'est pas l'écriture au-dessus de tout, c'est pas la poésie, c'est au-dessus. Et donc, il faut que tu grimpes pour l'atteindre.
Ouais.
Tu sais, comme je te revois en Salon du livre, t'es là avec ton livre 47 Ateliers des saveurs, mais t'as aussi des cannes dans lesquelles t'as inséré des poèmes. Puis juste ça, il y avait c'était des cannes de, ça imitait des,
ouais, haricots,
à des haricots
noirs.
C'est ça, haricots noirs, exactement, tu sais, mais comme on les voit à l'épicerie, fait que tout de suite les gens ont une attache, ont une, tu sais, moi je voyais là vraiment les gens être comme à ça, je dis oui,
ouais,
j'y vais, je suis là, puis là tout d'un coup c'est une porte de plus vers le poème, vers les mots, vers la poésie. Puis ça m'a toujours fasciné, mais avec cet objet du quotidien.
Oui. Bien, je pense que ça a été le plus gros travail que j'ai eu à faire comme écrivain. Je me suis rendu compte que, c'est ça, la marche envers la poésie ou l'écriture était, tu sais, c'était une île assez lointaine, puis le pont était long à construire. Je me disais, pourtant, cette même personne-là est gourmande, elle va essayer tel type de bière ou elle va aller voir tel spectacle en se disant, je veux pas que ça soit nécessairement classifié, ça va être du punk rock acide, je sais pas quoi. Puis, tu sais, les gens ont des pratiques culturelles, ont des pratiques sportives, culinaires, vestimentaires, n'importe quoi. Puis je me disais, c'est drôle, ils n'ont pas des pratiques de lecteurs qui sont aussi diversifiées. Ils ont des craintes, ils ont... c'est ça, il y avait comme un travail à faire de sensibilisation presque. C'est presque ça que je sentais, là, que les gens ouvraient le livre. Il y avait une crainte, il y avait... Dès que ça sortait des normes d'un paragraphe carré ou du mot roman, ou, donc juste de dire... vous avez le droit d'essayer, vous avez le droit de juste, parce que vous aimez les saveurs, prendre ça puis regarder. Donc, l'espèce de travail de rendre possible cette curiosité-là, ce sens-là. Donc, ça a été un gros casse-tête au début. Parce que pour moi qui est curieux, puis qui est gourmand, puis qui est un peu... Je comprenais pas comment les gens pouvaient pas juste avoir la première impulsion de dire, ben, je vais juste regarder une page ou deux, puis je verrai. Il y avait des bonnes frontières, là. Il y avait des barrures, là. Il y avait des choses à ouvrir, là. La porte n'était pas... était cadenassée.
Mais t'aurais pu décider de pas rien tenter pour ça. T'aurais ouais. pu tracer ta route, puis dire non, moi, je fais mon truc, puis qui m'aime me suit. Qu'il y a quelque part, là.
Oui, effectivement. Puis d'une certaine manière, au début, c'était un peu ça qui arrivait, c'est-à-dire que les premiers recueils qui sont simplement lus, tu vois de temps en temps un lecteur qui te revient, mais j'avais le goût d'un contact, avec un contact humain avec de l'autre côté là, de la page. J'avais le goût d'un contact humain plus fort que ça. Puis même encore aujourd'hui, quand... j'ai des beaux retours de lecture et tout ça, ça me fait plaisir, mais un retour de lecture, je le sens que la personne, là, elle a passé des heures et des heures à adorer ça. Mais juste ça, c'est par rapport à aller faire une marche littéraire ensemble ou une intervention, où, il y a quelque chose qui me manquerait de ma pratique si j'avais des retours purs de lecture. C'est quand même... c'est désincarné malgré tout. C'est bête à dire parce qu'il y a tout ce qu'il faut là, parce que ça me comble. Mais je pense que la rencontre humaine concrète en chair et en os, je pense qu'elle me manquerait. Je reviens encore dans les saveurs, mais c'est-il faire une magnifique assiette que personne goûte ou que tu mets là, tu t'en vas, puis deux semaines après, quelqu'un te dit « j'ai beaucoup aimé ta salade ». C'est pas pareil que partager un repas avec les gens. Donc, moi, j'ai l'impression de partager des repas avec les gens. Fait que tu vois, ça, je le verbalise là, mais c'est un peu ça, le rapport. Je cuisine, mais je cuisine pour qu'on mange tout de suite ensemble. Une bonne partie. Puis après ça, ben, je leur fais un repas, je leur fais un paquet de 8 semaines à emporter.
mais c'est vraiment une belle analogie parce que ça m'émeut parce que j'ai envie de te dire et c'est nourrissant.
Ouais.
Et c'est très nourrissant pour l'avoir vécu moi-même de différentes façons. C'est très, très nourrissant. Quand on revient à cette idée de sens aussi, hein, ça nous nourrit,
ouais.
Je crois.
Ouais. Puis tout ça n'est pas prévu. C'est des petits gestes par petits gestes. Puis des besoins, je dirais, presque un besoin viscéral de la création qu'on comprend. Puis je comprends très bien que ça ne soit pas la même chose pour... Il y en a qui sont très mal à l'aise avec la rencontre concrète, là. Une fois qu'ils ont l'œuvre reste là, et puis ils se reculent, puis ils laissent faire l'œuvre. Puis peut-être que j'aurai des pans de mes écrits qui seront comme ça aussi, là. Le prochain qui s'en vient est complètement différent. C'est sur le rituel, la spiritualité. Fait que c'est complètement autre chose.
Plus intime, peut-être?
Très, très intime. J'imagine des interactions, mais c'est très, très minimal. Ça va complètement ailleurs, donc je ne sais pas ce que ça va donner non plus.
Ça fait quelques minutes que je suis silencieuse et que je vous écoute, mais c'est parce que j'aime beaucoup ce que tu as dit sur, tu sais, tu dis, moi, je suis curieux, je comprends pas que les gens aient pas cette curiosité-là ou se laissent pas aller. En tout cas, tout ce que tu viens de dire, ça me fait m'interroger sur mes propres barrières, finalement. Je me dis, c'est vrai, pourquoi qu'on se laisse pas aller là-dedans? Tu sais, comme la poésie, je veux dire, est-ce que c'est parce que la langue, tu sais, très tôt, c'est associé à faire, justement, à faire sens, c'est rationnel, c'est... Quand j'ouvre un livre de poésie, c'est... Tout de suite, je me dis, mais là, qu'est-ce qu'il veut dire? Mais si je comprends pas, qu'est-ce qu'il veut dire? Puis quand j'écoute des poètes parler, ça me fait du bien, parce que là, je comprends que... Mais j'ai le droit de me l'approprier puis de trouver le sens que je veux, mais je trouve ça extrêmement difficile de faire ça. Tu sais.
Ah, c'est drôle parce que, justement, la plupart des poètes te diraient juste « ressens quelque chose » ou il n'y a pas d'approche qui est intellectuelle souvent. Mais oui, je pense que c'est la société. On a un rapport à l'écriture qui est fonctionnaliste, qui est utilitariste. C'est... Fais ton CV, fais ta lettre de recommandation, écris ton rapport.
Parce que ces mêmes barrières-là, on les a pas en peinture. Ben, en tout cas, pour moi, pas en musique. Peinture, pas en nourriture, pas en musique, alors qu'en écriture.
Oui, hein? Ben, c'est ce que j'ai remarqué. Moi, je peux en avoir, par exemple, quand je vais voir un spectacle dedans, je me dis, mon Dieu, je devrais y aller bien plus souvent. T'sais, des fois, c'est de la paresse aussi. Ou c'est... Mais on a toujours nos propres petites barrières. Mais l'écriture, c'est... Je dirais que le contrôle social sur l'écriture est tel que... Puis même, il y a beaucoup. C'est ça aussi, les bibliothèques de survie. C'est, tu tombes par hasard sur un livre. C'est même mal. Il y a des gens qui feront pas le détour par une bibliothèque ou une librairie parce que c'est trop imposant.
Mm-hmm.
C'est trop... Puis il y en a qui te le font sentir, là. Des fois, j'arrive de la France, là, des fois, le bibliothèque... Dans la librairie, là, c'est comme oui, bonjour. c'est pas le même accueil que le boulanger, là. Tu le sens. Là.
Ouais. Puis il y a des libraires qui se battent contre ça.
Ici, je veux dire, vous le savez, là, vos voisins ici, là, vos librairies voisines, c'est le contraire. Mais oui, il y a du travail à faire. Il y a beaucoup de travail. Puis c'est correct aussi parce que moi, je me dis. Tout ce que tu n'as pas découvert, c'est génial. Imagine si j'avais lu aucun Tintin, le plaisir que je pourrais avoir.
Tout ça, c'est génial à cause de tout ce qui te reste à découvrir. Dans la saison 1 d'écrire, il y a Laurence Ouellette-Tremblay qui mentionnait c'est étrange, nous, les poètes, parce que on doit faire de la création avec le même matériau qu'on utilise. Pour dire bonjour, bonsoir, pour, tu sais, un matériau... Se commander une pizza, exactement, c'est ça. Fait que c'est aussi, je pense, inhérent à la langue elle-même, au langage, aux fonctions du langage, dans le fond, puis aux matériaux. Puis c'est ce qu'elle comparait notamment aux musiciens. C'était comme, ils n'ont pas ce même rapport avec le langage musical, là, tu sais. Fait que c'est vraiment, c'est ça, c'est dans le rapport à la langue, puis particulièrement la langue française. Là, je me mets du point de vue des lecteurs, qui a été un instrument de domination aussi, qui est encore, je pense, un instrument de clivage social puis de domination. Mm-hmm. Ça fait qu'il y a ça également, mais toi, pour revenir à toi, tu déplaces tout ça, tu joues avec ça. Justement, quand c'est rendu une marche en forêt, la marche en forêt, écrit sur un bâton, écrit là, tu sais, c'est ça, c'est toutes les voies parallèles, c'est toutes les voies d'entrée qui peuvent ouvrir les possibles.
Oui, puis tu l'as dit un peu, le livre est une espèce de paroi pour des gens qui étaient... Tu sais, il faut prendre des voies de détour. Puis je pense que tout le monde mérite le panorama que ça permet de voir, mais il y en a qui ne sont pas capables de faire la falaise. Il faut les amener petit à petit. Puis moi, quand je dis un livre, je parle pas nécessairement d'un recueil de poésie. Là. Je peux parler d'un guide pratique de mycologie ou je peux parler d'une biographie. Ou pour moi... J'ai un rapport à l'écriture qui est non-genré. Pour moi, écrire, c'est écrire. Après ça, ben, on mettra une étiquette si on veut. Dans mon cas, je me sens pas le besoin d'en mettre. Mais ça, je pense que l'écriture elle-même, l'écriture est plus large que la littérature. Donc, il y en a des gens qui vont écrire pour se réconforter, qui vont écrire pour communiquer à d'autres, qui vont écrire, puis ils en ont besoin dans leur vie non professionnelle. Puis ça sera jamais de la littérature, puis c'est bien comme ça. Donc, la pratique de l'écriture est beaucoup plus vaste que l'écriture littéraire aussi. Là.
Penses-tu qu'on pose la bonne question quand on dit qu'est-ce que la littérature peut pour nous? Est-ce qu'on devrait dire qu'est-ce que...
Ben, c'est très... Je pense que c'est une très bonne question. Mais si tu poses qu'est-ce que l'écriture peut pour nous, probablement que là, le psychologue va dire « Attends, j'ai ma réponse, le médiateur, plein de soignants, plein de... je sais pas, la personne en pub. » Là, tu rentres dans une autre sphère, mais qui peut être humaine sans être dans chaque discipline. Là, je préfère qu'est-ce que la littérature peut faire pour nous, parce que là... on est indisciplinaire, on reste dans la littérature, puis on fait des boucles en revenant vers la littérature.
Oui, puis doit-on toujours se défendre de penser à la littérature aussi? Il y a de ça, là. On avait envie de se poser cette question-là aussi parce qu'elle est souvent considérée comme inutile.
C'est comme prendre encore là un grand vin par rapport à juste le vin de mon oncle Chose. On dit « Ah oui, ça peut être ça ». Donc, même si on ne fait pas du grand vin, on comprend ce que ça peut être. Donc, moi, je pense que la littérature permet ça aussi, là, de dire « j'atteindrai jamais ça, mais moi, je peux écrire pour mes besoins, je peux lire ce que je veux, etc.
» C'est très intéressant la perspective que tu donnes. Vraiment comme un univers de possibles, tu sais, puis un univers de l'expression humaine dans différentes formes.
C'est tes questions qui m'ont mené là. Je veux dire, moi, je me rappelais pas de ça. Demain, il va falloir que j'écoute.
Je crois que tu te réécoutes. Est-ce que la poésie est partout?
Est-ce que la poésie est partout? Est-ce qu'on peut la mettre partout? Elle n'est peut-être pas rendue partout. Je pense que ça peut apporter quelque chose, mais il ne faut pas arriver... faut pas arriver comme quelqu'un qui est tellement fervent, qui sort son pied dans la porte, puis qui met sa Bible sur la table, puis qui dit « j'ai trouvé la solution à tout ». Mais moi, j'ai un credo personnel que je pense que ça peut apporter beaucoup à ceux que je rencontre. Il faut savoir comment les convaincre de ça en étant... je dirais en étant doux, en étant respectueux, en étant à l'écoute aussi de ce dont les gens ont besoin. Des fois, c'est pas une grosse dose de poésie, c'est voir un coucher de soleil, puis c'est ça. Il n'y a pas grand monde qui aime pas être sur le bord d'un feu, puis qui va dire « c'est beau un feu, hein? » Pour moi, ça, c'est de la poésie. Puis c'est des fois juste ça. Je pense que la poésie est presque quasi, pas encore tout à fait partout.
Ah, merci pour cette belle réponse. Pleine de douceur, un échange plein de douceur aussi, vraiment. Merci Charles.
Merci à beaucoup. Vous deux. C'est donc belle fun de parler à vous autres.
Écrire saison 2 est un balado du Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean. À la scénarisation, à la recherche et à la réalisation, Raphaël Guillois et Sophie Gagnon-Bergeron. Au montage, Benoît Pellerin.
À l'enregistrement et au mixage sonore, Jean-Philippe Archibald.
Nous remercions le Conseil des arts du Canada pour son soutien et Sylvie Marcoux, directrice générale du Salon du livre, sans qui ce balado n'aurait jamais vu le jour. Merci également à Canopée pour son expertise.